L'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal de Colmar, 29e édition du 5 juillet au 14 juillet, hommage au chef d'orchestre Michel Plasson, c'est sur Accent 4 et c'est maintenant.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CIC Est et d'Arpège Armand Meyer.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de recevoir chez vous cet avant-dernier numéro de l'Opus Festival de Colmar. Nous sommes le jeudi 13 juillet à 21h en l'église Saint-Mathieu. Nikolaï Louganski sera le soliste des 4e et 5e concertos de Beethoven. Il aura à ses côtés l'Orchestre National Philharmonique de Russie, placé sous la direction de Vladimir Spivakov. À 18h15, dans quelques minutes, le trio Van der Heer sera à la chapelle Saint-Pierre et interprétera Chausson et Saint-Saëns. Aujourd'hui, ce jeune ensemble trentenaire est notre invité. Mais pour l'instant, place à la musique.
Thank you.
le Beaux-Arts Trio, Menamen Pressler piano, Isidore Cohen violon et Peter Willey alto interprétaient le scherzo du premier trio en fa majeur opus 18 de Camille Saint-Saëns. Avec nous pour cette avant-dernière émission, les membres du trio Van der Heer, Vincent Koch piano, Jean-Marc Philips Varjabédian violon et Raphaël Pidou violoncelle. Bonsoir à vous trois. Aujourd'hui, vous ne jouerez pas ce trio de Saint-Saëns composé en 1864, mais celui en mi mineur opus 92, qui date justement de 1892, que le Beaux-Arts Trio n'a pas enregistré à ma connaissance. J'ai choisi également le Beaux-Arts Trio car il est un exemple unique de longévité, 54 années passées au service de la musique. Par ailleurs, vous avez reçu les conseils du pianiste Menamen Pressler. Qu'avez-vous appris de ce Beaux-Arts Trio ?
Surtout de Menamen Pressler, parce que c'est le seul qu'on ait en fait connu. Cela dit, Menamen Pressler était vraiment le centre du trio. C'est quelqu'un qui... D'ailleurs, il m'avait dit une fois, le Beaux-Arts Trio, c'est moi. Donc, il a en toute simplicité.
Oui, d'accord.
Voilà. Mais ce qui est vrai, parce qu'en fait, ils ont changé, je crois, au moins 5 fois de violoniste dans l'histoire. Il y a 2 violonistes qui ont été très importants, Isidore Cohen et avant Gillett. Mais j'ai oublié le prénom. Et Daniel Gillett. Et puis Bernard Rienhaus au violoncelle, qui restait lui 35 ans. Mais à partir de leur départ, ça a changé très très souvent, que ce soit le violoncelle et les violonistes. Sauf Menamen Pressler, qui était vraiment... qui restait toujours là, puis qui est toujours là, non plus dans le trio, mais il a 94 ans. Il joue toujours, cette fois-ci seul ou avec d'autres partenaires. Ce qu'on a appris, c'est difficile. Menamen Pressler, c'est quelqu'un qui était un musicien qui, disons, très... Qui quelqu'un qui transpire la musique, qui est passionné. Donc en fait, quand on travaille avec lui, on joue un peu comme lui, parce que c'est quelqu'un qui a des idées sur tout, donc il dit une chose sur chaque note. Et c'est formidable, parce qu'après 2 heures passées avec lui, on a l'impression de savoir jouer les œuvres. Avec le temps, je pense que c'est très important, comme n'importe quel professeur, il faut se dégager un petit peu de l'influence de maître comme ça. Mais c'est un très grand artiste, très grand musicien. Donc voilà, mais c'est beaucoup de choses dans le détail. C'est difficile de donner une chose générale, en fait.
Vous l'avez rencontré à quelle époque ?
C'était en 89, 90, 91. Voilà, on travaillait avec lui en France.
Au début de votre collaboration ?
Voilà, tout à fait au début, oui. On a travaillé, disons, on était étudiants au Conservatoire de Paris, dans la classe de Jean-Claude Pentier, et on a rencontré Menamen Pressler au Festival de l'Orgue d'Anthéron, dans les masterclass du festival, où maintenant on est professeur, on est passé de l'autre côté de la barrière. Et on a travaillé avec lui aussi à Banff au Canada, et puis aux Pays-Bas. Voilà, donc, mais c'était vraiment dans les années, oui, 90, 9-91, en fait, ces années-là, à peu près.
Bloomington, surtout.
Non, on l'a jamais vu à Bloomington.
Pressler ?
Jamais.
Ah bon ?
Non, c'était chez Bock et Strucker, mais jamais Pressler à Bloomington.
Et donc, 54 ans d'existence pour ce Beaux-Arts Trio, plus que 24 ans à tenir. Pour arriver vous-même aux 54 ans, c'est un objectif, c'est...
Non,
pas forcément, mais vous... c'est...
Disons que je pense que le plus dur est passé. Ce qu'on voit, puisque nous sommes maintenant aussi professeurs, Raphaël et moi, nous avons des classes d'instruments au CNSM, Vincent, une classe de musique de chambre à Lausanne, mais on fait aussi beaucoup de masterclass de trio. Et on a entre autres une classe d'excellence au CRR de Paris, où on a des trios qui viennent un peu d'Europe pour travailler avec nous, des trios déjà constitués. On s'aperçoit, malgré le talent que peuvent avoir certains trios, que la plus grosse difficulté, c'est de durer. C'est rester ensemble. Et c'est surtout au début, en fait, que ça se passe. Parce que... Mais là je ne dis pas qu'on est fossilisé, mais... Disons que, voilà, s'il y a 30 ans d'existence, à moins d'un gros problème de santé de nous trois, logiquement, les choses doivent perdurer. Après, le but n'est pas de durer comme le... C'est pas des... Voilà, le Beaux-Arts Trio a fait sa carrière, nous, on fait la nôtre. Et on ne cherche pas à imiter qui que ce soit en quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que le fait d'avoir duré des années comme ça, on recueille les fruits maintenant. C'est-à-dire que, aussi bien sur le plan artistique, où on arrive maintenant à une forme de maturité qui fait qu'on peut aborder les œuvres avec pas mal de sérénité, ou au niveau de la reconnaissance du public, parce que depuis 30 ans qu'on entend parler du trio Van der Heer, bah maintenant la notoriété se fait, alors qu'on n'est pas du tout dans le star system. Les groupes de musique de chambre, même le Beaux-Arts Trio, même le Quatuor Amadeus, qui sont des formations phares, la musique de chambre est éloignée du star system, contrairement aux solistes, aux chanteurs et ainsi de suite. Donc on n'a pas ce souci-là. Voilà.
Et justement, avec cette maturité que vous avez atteint en 30 ans, vous commencez à réenregistrer parfois certaines œuvres, donc avec une vision différente.
Tout à fait. Enfin, je peux laisser parler même mes camarades, Raphaël, par exemple.
On réenregistre parce que souvent, on ne trouve plus certains disques. Donc là, en l'occurrence, Dvorak, par exemple, on avait réenregistré le Doomkey, qui était un de nos premiers enregistrements avec Sony. Et ce sont des disques qui disparaissent après, qu'on retrouve plus. Et donc là, comme on voulait enregistrer un autre grand trio de Dvorak, on l'a couplé avec le Doomkey qui reste très populaire.
Bien sûr.
Et c'est en plus de ça, la 6e Doomka, c'est un petit peu notre bis phare, dans le best-of. Oui, voilà. Donc, d'ailleurs, un jour, on fera un peu comme les jazzman ou les chanteurs, on fera un disque des best-of. Je pense que c'est important d'avoir également des mouvements rapides, courts, pour les gens qui ont un petit peu peur du format long des symphonies ou des trios ou des quatuors. Quelquefois, c'est bien d'avoir un petit disque comme ça, sucré.
Et vous avez partenaire qui vous suit depuis nombreuses années maintenant, Harmonia Mundi, qui vous laisse le champ libre ou comment ça se passe?
Honnêtement, au niveau du répertoire, oui. Harmonia Mundi, malgré les il y a eu des changements récents parce que sont rachetés par un groupe franco-belge, mais avec leur, d'ailleurs, leur bénédiction, même c'est ce qu'ils souhaitaient. Au niveau artistique, les équipes ne changent pas. Et donc, on a vraiment toute l'attitude à proposer. Alors, ils peuvent dire, on n'a pas trop envie ça, mais là, on a la dernière rencontre qu'on a fait avec la direction artistique, on a parlé de 5 projets, donc c'est déjà beaucoup. Et donc, il y en a un qui est déjà fait, qui est enregistré, c'est les trios de Haydn qui sortira en fin de l'année ou le début de l'année prochaine.
Les trios de Haydn.
Des trios de Haydn, ouais. 5 trios de Haydn. Et ensuite, on va enregistrer en janvier un disque contre au trio de Rachmaninoff. Après, ce sera peut-être des quintettes. Donc, on a vraiment toute une série de projets. Ils nous laissent totale latitude. Et on a la chance aussi, c'est qu'il y a une chose, Harmonia Mundi, parce que le disque, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas combien de temps ça va encore exister, il ne faut pas rêver, c'est très compliqué actuellement pour toutes les maisons de disques, grosses, petites, parce que le digital ne compense pas, pour le moment en tout cas, du tout les ventes physiques. Donc, mais les contraintes d'enregistrement sont toujours les mêmes, ça ne peut pas changer. Et en Harmonia Mundi, on a des conditions d'enregistrement qui sont absolument extraordinaires. Et donc, on va enregistrer toujours au studio Tel Dex à Berlin. On a les pianos de Steinway avec les accordeurs de Steinway. Enfin, on a des conditions vraiment exceptionnelles. Et ça, c'est très important parce que faire un disque, mais il faut le faire dans des bonnes conditions. Si c'est pour le faire pas n'importe comment, ça ne nous intéresse pas.
Et les œuvres que vous enregistrez, c'est toujours une décision collégiale où il y en a un qui a une idée et puis moi, j'aimerais bien.
Il y en a un qui a une idée, les deux autres qui suivent, chacun a ses idées. Donc voilà, de toute façon, tout est collégial.
Oui.
Il n'y a rien qui se décide par rapport à ce que disait Vincent tout à l'heure sur le trio de Beaux-Arts Trio. Je pense que dans le Beaux-Arts Trio, Menahem Pressler décidait beaucoup de choses.
C'est le leader.
Voilà, tandis que là, chez nous, il n'y a pas de leader et on prend les décisions à trois et c'est très facile parce que comme on est trois, il y a toujours une majorité.
Il y a pas mal d'alternance entre les répertoires, c'est-à-dire il y a un répertoire 18e, un 18e qui est quand même important, la naissance du trio avec Haydn par exemple. Donc c'est pour ça qu'on s'attache à de temps en temps enregistrer de nouveaux trios, puisqu'il y en a beaucoup. Tous, on va pas tous les enregistrer, mais il y en a au moins une bonne trentaine qu'on pourrait faire. Et puis après, là, on va ressauter dans la musique russe, et puis ensuite, on fera du quatuor avec des collègues avec lesquels on joue souvent, etc.
On va écouter votre dernier CD, édité donc chez Harmonia Mundi, consacré à Antonin Dvorak, et on va entendre le premier mouvement du trio Doomkey, opus 90. Nous écoutions le premier mouvement, Lento Maestoso, du trio Dumki, opus 90 d'Antoni Dvorak, extrait du dernier enregistrement du trio Wanderer chez Harmonia Mundi. Un mot sur ce trio de Dvorak, Dumki, qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, la définition exacte et musicologique, une Dumka, parce que c'est le singulier, ce sont à l'origine des chants non rituels de mariage en Ukraine. Mariage populaire. En fait, au 19e siècle, c'était en fait des chants qui étaient improvisés par un homme en général qui s'accompagnait de l'instrument populaire, d'une lyre. Mais en fait, c'était assimilé par des compositeurs du 19e siècle à une rêverie poétique, en fait, un peu improvisée. Et c'est ça, une dumka, on peut dire. C'est une sorte de rêverie musicale. Et Dvorak, donc, lui, les fait suivre presque toujours d'une danse populaire aussi, tirée de la musique populaire, une sorte de furiante. Donc, on a toujours cette alternative dans le trio Dumki de ces six pièces, d'une rêverie en fait, suivie d'une danse populaire slave, enfin tchèque.
Et est-ce que vous sentez l'âme Dumka alors ?
Pardon ?
Est-ce que vous sentez l'âme Dumka ?
Oui, enfin, oui, bien sûr, mais c'est une rêverie, donc l'âme, c'est difficile, c'est vraiment c'est une improvisation, sauf que Dvorak est un très grand compositeur, et c'est quelqu'un, c'est pas du tout une musique, pour le coup, un petit peu, parce que souvent, les Slaves, on tend à considérer la musique slave, ou ce genre de genre, comme musique un petit peu, comment dire, chacun fait ce qu'il veut, improvisé, et Dvorak, c'est comme du Debussy, il y a une indication sur chaque note, les pédales, même au piano, sont d'une précision incroyable, il y a des accents, des points, et tout a un sens, c'est un très grand compositeur qui savait exactement ce qu'il voulait, d'ailleurs, c'est une des œuvres qu'il a le plus joué, c'était pas un bon pianiste lui-même, mais il adorait jouer cette œuvre en concert. Et donc c'est une pièce où tout est écrit par le compositeur, ça laisse quand même une voix, mais heureusement à l'interprétation à l'improvisation si on veut, mais avec une précision d'écriture qui est absolument formidable, et c'est là pour ça que je dis que Dvorak est un très grand compositeur.
L'âme slave est très éloignée du point physique de l'esprit français.
Oui, non. Alors moi, j'ai baigné un peu dans la culture plus ou moins slave de par mes origines. Les Arméniens et les Slaves, c'est pas du tout la même chose. Mais comme je fréquentais des Arméniens qui avaient été élevés à Moscou ou en Russie, non, oui. C'est-à-dire que il y a des caricatures qui se font d'un côté comme de l'autre. Les Français font une caricature de l'âme slave en pensant que l'âme slave, c'est passer du rire aux larmes sans retenue, dans le débordement total. Et donc, on va se mettre à jouer du Tchaïkovski en rajoutant, en faisant peut-être quelque chose de vulgaire. Alors que Tchaïkovski est considéré par les Russes, à juste titre, comme un compositeur vraiment classique. C'est leur Beethoven à eux. Voilà. Et donc, et inversement, les Russes ou les Américains d'ailleurs ont tendance à penser que la musique française, c'est du raffinement de salon, qu'il ne faut pas dépasser le mezzo forte, qu'il faut être dans la dentelle. Et alors que, voilà, la première victime, c'est un compositeur comme Fauré, par exemple, qui est un compositeur que je trouve extrêmement viril dans sa façon de s'exprimer. Très romantique, en fait, très lyrique, et on peut jouer double forte du Fauré, on peut jouer avec une certaine violence du Fauré, et on n'est pas obligé de faire...
caresser les cordes.
Voilà, de faire un faux impressionnisme. Voilà, donc ça, c'est... On se trompe un petit peu avec ça, et je pense que le mieux pour un interprète, c'est d'essayer de rentrer effectivement dans un état d'esprit, un contexte. Pour ça, c'est ce que je conseille à mes élèves, lire un peu de littérature russe, lire du Tchekhov, du Gogol, ça permet de rentrer dans un état d'esprit, et après on retrouve dans la musique de Tchaïkovski des sentiments assez similaires, on n'est pas obligé de se tromper à chaque fois qu'on doit...
Il y a une chose amusante, c'est que justement pour revenir à Pressler, quand on était étudiant, quand on jouait de la musique allemande, Beethoven, choses comme ça, et qu'on faisait un ralenti, il disait ne jouez pas français. Pour lui, c'était pour jouer français, c'était faire des petites affaîtreries comme ça, des petites Oui, des petits gros bateaux inutiles, des choses comme ça. C'est pour lui, c'était jouer français. Et ce qui est drôle, parce que quand on connaît Ravel, des gens comme ça, qui était quelqu'un qui était obsédé par la précision, par son texte, il écrivait tous les tempi, etc. Ça n'empêche pas qu'il y ait une immense souplesse. Je me rappelle que chez Fauré, mais c'est sur des musiques éminemment structurées, comme l'esprit français en général. Enfin, par rapport à l'allemand, si on prend la philosophie, la littérature, souvent il y a quelque chose de plus, peut-être plus carré dans la littérature, dans l'esprit français, que le romantisme allemand, qui quelquefois, pour les Français, part un petit peu quelquefois dans des choses un peu nuageuses. Et c'est assez amusant de voir comment on peut, les gens, le rapport qu'ils ont, en tout cas à une certaine époque, vis-à-vis de d'autres répertoires. Je pense que c'est des choses qui changent beaucoup, puisque maintenant, les artistes, les étudiants, les écoles, disons, voyage beaucoup, les écoles ont tendance à un petit peu disparaître. En même temps, c'est un côté triste, parce que peut-être qu'il y a une forme d'uniformisation, mais les écoles sont moins marquées maintenant, l'école russe, l'école française, l'école américaine, l'école allemande, puisqu'on a la chance de pouvoir, tous nos étudiants et nous-mêmes, on a travaillé aux États-Unis, on a travaillé en Allemagne, avec des Allemands, avec des Américains, des Russes. Donc, on arrive à avoir quelque chose de plus, pour chaque répertoire, de plus proche de l'origine. C'est vrai qu'il y a peut-être dans les années 50, on reconnaissait très bien un orchestre russe, un orchestre américain, plus que maintenant. Ça a tendance à s'aplanir. Voilà, mais c'est les temps qui veulent ça, les temps modernes.
Dans le programme que vous allez interpréter ce soir, donc Saint-Saëns et Chausson, c'était deux compositeurs français évidemment, mais qui étaient au début en tout cas pro-wagnérien. Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose de wagnérien dans la musique?
Alors, dans le trio de Chausson, certainement, spécialement dans le troisième mouvement, le mouvement lent, où au milieu du mouvement, il y a une espèce de montée en puissance absolument incroyable qui rappelle à la fois dans la longueur de cette montée et puis dans les harmonies des choses de Wagner. Oui. Dans le trio de Saint-Saëns, absolument pas.
Saint-Saëns, on rappelle qu'il a été composé en 1892, donc c'est bien après la création de l'école française. Je me souviens plus de son la Société nationale de musique en 1871. Donc il y avait eu vraiment un avant et un après leur mot d'ordre, c'était Ars Gallica, déjà. Oui. Donc, c'est bien après cette période-là.
Chausson, c'est l'école de Franck. Il faut dire que c'est lui-même, avec ses chromatismes, et il y a l'aspect cyclique de la musique, c'est-à-dire le thème qui revient tout au long de la pièce, mais les chromatismes, là, on sent Wagner, on sent Liszt, bien sûr, qui sont dans la lignée Franck, et Chausson est dans la pleine école de Franck. Il y a toute une série de compositeurs, Chausson étant peut-être de cette école après Franck le plus important, mais Ropart, tous ces gens-là, par exemple Jean Krause, toute cette génération de compositeurs c'était des gens qui découlent de l'école de Franck. Saint-Saëns, non, je crois qu'il a toujours été, de toute façon Saint-Saëns a été tellement multi-influence, c'était une espèce d'éponge qui prenait un petit peu à droite, à gauche. Il était intéressé à l'orientalisme, le concerto égyptien, à tout un tas de choses, et donc il prenait quelquefois avec réussite, quelquefois avec moins de réussite, disons, parce que tout n'est pas égal chez Saint-Saëns, mais il a gardé toujours cette espèce d'esprit français, une espèce de clarté dans l'écriture, de précision, et jamais Saint-Saëns sa musique ne s'est engouffrée dans le fatras germanique et les tourments germaniques. C'est toujours une clarté dans une brillance et une simplicité, on peut dire, dans l'écriture de sa musique, qui n'est pas du tout germanique.
Oui, quelque chose de transparent un peu. Voilà. Si on doit faire le fatras germanique, on n'est pas loin de l'Allemagne, là, si tu veux recommencer la guerre de 14, on est bien barré. Disons que, voilà, dans la fin du romantisme allemand, avec Richard Strauss et des gens comme ça, effectivement, on a, et Wagner surtout, on a... des fois des Bruckner aussi, on a des lourdeurs un peu, enfin des choses qui nous paraissent, nous, un peu lourdes, un peu... Bon. Alors que la musique française reste toujours assez transparente. Voilà.
On avait le délégué général de l'Académie Michel Plasson, Didier Laclau-Barrère, qui disait le chant... On parlait du chant français, il disait le chant français, c'est la clarté.
Oui.
Oui, bah voilà, bah c'est un peu ce qu'on peut, je pense, dire aussi au niveau des compositions. Quoique, après, justement, dans l'école post-Franck, on a des compositeurs français qui viennent un peu moins clairs. Repartz.
Mais c'est parce qu'ils sont, ils sont un peu germaniques. Enfin, voilà. Même s'ils sont très inspirés de la musique populaire française, ils ont, dans la façon d'écrire, c'est post-Franck, justement, ces chromatismes. C'est pas du tout le monde de Debussy, du monde de Ravel, qui était. Il s'était même considéré, Chausson, à la fin de sa vie, Ravel le considérait un peu comme un compositeur réactionnaire. En plus, il était assez, je crois, politiquement. Mais et c'est vrai, et Dindy, tous ces gens-là étaient considérés comme. Il était d'ailleurs, là où lui aussi, des gens comme une forme de réaction conservateur, donc cette lignée post-Franck, post-germaniste, et il y avait les modernes, qui étaient Ravel, Debussy. Forêt, lui, a toujours été à part, il n'a pas eu d'héritier, c'était un monde, un langage unique. Et voilà, donc, c'est ce qui a fait que et c'est vrai que la clarté, c'est plus Debussy, Ravel, Forêt, c'est vrai que le chant français, quand on entend Cuinot, tous ces gens-là, la clarté de la prononciation, de la diction, le français, la façon de chanter cette musique, c'est Poulain, bien sûr, plus tard, c'est très particulier. Et le jeu de Saint-Saëns, parce qu'on a des enregistrements de Saint-Saëns au piano, Toscanini disait que c'était le pianiste qui l'avait le plus impressionné. Pourtant, on sait que Toscanini avait même joué Horowitz. Mmh. C'était un pianiste de génie, enfin, une technique monstrueuse. Et on entend les enregistrements de Saint-Saëns, une clarté, la clarté française du jeu. Enfin, c'était. Ça aussi, c'est un peu un cliché, parce que tout le jeu français n'est pas comme ça.
C'est peut-être un peu cette clarté que je retrouve, moi, dans du Bach ou du Beethoven, qui finalement, eux, ont influencé tous les compositeurs encore maintenant. Voilà, on est loin du fratras romantique, mais avec Bach et Beethoven, il y a cette espèce de clarté, et clarté aussi de la construction, que tous ont essayé de suivre. Mais donc je pense que chez Saint-Saëns, par exemple, où il y a une construction absolument sans faille, même si l'inspiration n'y est pas toujours, ou les thèmes sont un peu légers, mais au moins il y a cette espèce d'esprit, et puis il y a toujours les fugues, il y a toujours une démonstration technique.
Comme disait Jean Hubaud, qui était un grand maître de la musique, qui est mort maintenant, était un des grands, disons, pédagogues et connaisseurs de la musique française, donc conservatoire de Paris, il disait.
Un grand interprète
aussi. Et il disait, quand Saint-Saëns ne sait plus quoi faire, il fait une fugue. Et c'est vrai, voilà, il n'est pas le seul compositeur à faire ça d'ailleurs. Et Saint-Saëns, c'est vrai que des fois, il y a des passages qui sont creux, où il n'y a rien à dire, mais il le dit avec brio. Voilà, il le dit avec talent et ça passe, parce que il fait passer ça sur la virtuosité. Il peut y avoir, chez Saint-Saëns, des passages, il faut le dire, creux, mais il y a toujours un bonheur instrumental, parce qu'il avait une façon d'écrire, une telle connaissance des instruments, maîtrise instrumentale, donc il y a toujours un plaisir physique à jouer sa musique. Et donc, et c'est une musique, voilà, qui est pleine d'enthousiasme, même si quelquefois, il y a des petits trous d'inspiration, il faut le dire.
C'est cette clarté alors que vous essayez de rechercher dans votre interprétation. Vous disiez tout à l'heure, hors micro, je vais le répéter, vous parlez du Beaux-Arts Trio, c'est un peu lourd.
Oui, pour nous, le fin, le scherzo, mais ça chacun ses goûts après.
Voilà, bien sûr.
Pour
mais...
nous, la partie centrale de scherzo, qui est une plaisanterie, hein, ce scherzo de Saint-Saëns, c'est plein d'humour, c'est juste quelque chose de très léger, et du premier trio, qui est une petite merveille. Et voilà, et toute la partie centrale, je pense qu'il faut que ça doit être resté avec beaucoup de légèreté et beaucoup de fantaisie, et ça ne doit surtout pas devenir germanique.
Eh bien, on va vous écouter. Encore une fois, dans une pièce que vous allez jouer ce soir, le deuxième mouvement du trio en sol mineur opus 3 d'Ernest Chausson, Incedia Amuna Mundi. Allez, vite, très vite. Thank you. Nous écoutions le deuxième mouvement, vite, très vite, du trio en sol mineur, opus 3 d'Ernest Chausson, par le trio Wanderer, que nous recevions aujourd'hui et qui joue en ce moment même à la chapelle Saint-Pierre, dans le cadre du Festival de Colmar. Merci à vous d'être venu au micro d'Accent 4. Une dernière question, quels sont vos projets et concerts futurs ?
Oula, bah y en a un paquet sur l'été, oui. Parce que comme on fête les 30 ans cette année, il faut avouer que ça a attiré pas mal d'organisateurs de concerts qui voulaient avoir un petit peu le côté événement. Donc on va jouer bientôt, là, dans 2-3 jours, à Grenoble. Ensuite,
disons qu'il y a, pour les choses plus importantes, on va avoir une grande soirée à la Roque d'Anthéron qui nous est consacrée autour d'une soirée Beethoven où on fera le trip de Beethoven puis de trio avec le Symphonie de Varsovia. Et au Festival de Périgord Noir, on va faire aussi une série de 3 concerts avec un jeune ensemble qu'on invite, où on partagera un concert autour de Schubert et du trio.
Et un peu plus exotique, au Festival de Balbec, voilà, où on va jouer cette année devant le temple de Bacchus.
Ah. Très bien, et donc ce soir encore, je vous rappelle à 21h, vous pourrez entendre en l'église Saint-Mathieu Nicolas Louganski, que nous recevions hier soir, accompagné par l'Orchestre National Philharmonique de Russie, dirigé par Vladimir Spivakov. Ils donneront les concertos pour piano et orchestre numéro 4 et 5 de Ludwig van Beethoven. Demain, ce sera déjà la dernière journée du Festival International de Colmar, et le concert de clôture sera donné par la violoniste Clara Yumi Kang et l'Orchestre National Philharmonique de Russie, dirigé une nouvelle fois par Vladimir Spivakov. Un programme entièrement dévolu à Piotr Ilitch Tchaïkovski. Demain également, Olivier Roy recevra le directeur du Festival International de Colmar, Hubert Nice, pour le dernier opus à Colmar. Merci à Colmar, merci à Colmar, non. Merci à Maxime pour la technique et bonne soirée sur Accent 4, la musique classique en Alsace.
L'opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CICEST et d'Arpège Armand Meyer.